Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bienvenue dans Éveil et Sortilège. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, celui des plantes magiques.
Oui, bonjour. On va explorer les plantes magiques de Paul Sédir, un texte qui inclut aussi des écrits de Stanislas de Guaita, tirés de Karl Kiesewetter. Donc deux visions un peu complémentaires.
Exactement. L'idée, c'est de voir comment ces auteurs liaient la botanique, l'occultisme, les traditions. On va essayer de faire ça avec une petite touche d'humour, hein, sans tabou.
Tout à fait. On commence avec Sédir et sa vision très ésotérique du monde végétal. Et puis on ira vers Guaita qui est, plus inventaire, parfois un peu plus sombre.
Alors commençons par Sédir. Il dédie son livre à Papus, c'est ça ? Une figure importante de l'occultisme.
Oui, tout à fait. Papus, fin 19e, début 20e. Et Sédir, lui, il ne cherche pas une approche scientifique, classique, analytique. Non, il veut une vision qu'il appelle spiritualiste et synthétique. Il voit l'univers comme une grande magie.
Une grande magie. Et comment ça s'applique aux plantes, cette vision, elle ?
Il commence par ce qu'il nomme la botanogénèse. Il fait le lien avec la Genèse, le troisième jour, la création des végétaux.
Ah oui.
Et il décrit trois âges pour la nature, fermentation, sublimation et puis la mort. Et il associe le végétal à Vénus.
Vénus, pourquoi Vénus ?
Parce qu'elle est née de la mer verte, symbole de beauté, de reproduction. C'est très symbolique son approche, quoi. Il y a même une petite référence humoristique à Isaac, mais bon, c'est un détail.
D'accord, et cette fameuse idée de science des signatures, que l'apparence d'une plante dit quelque chose.
C'est ça, la physionomie végétale. Pour Sédir, c'est clair, hein, l'apparence externe, elle reflète les vertus cachées. Les couleurs des fleurs, par exemple, ça vient des influences célestes.
Et les feuilles ?
Les feuilles, plutôt les influences terrestres. C'est vraiment l'idée que les forces astrales, les planètes, laissent leur empreinte sur la plante.
Une sorte de code à déchiffrer.
Exactement. Et ce code, il utilise une clé planétaire, la clé septénaire, avec les sept planètes traditionnelles.
Et tu peux nous donner quelques exemples de ces signatures ?
Bien sûr. Alors, Saturne, ce serait tout ce qui est un peu astringent, triste, les racines sombres, par exemple. Jupiter, quelque chose de majestueux, de grand.
Logique.
Mars, les épines, la force du bois, un côté un peu colérique. Vénus, la douceur, les fleurs, le parfum. Le soleil, l'harmonie, l'or.
Ah oui, c'est assez imagé. Hein. Et il parle de combinaisons aussi ?
Oui. Par exemple, Saturne et Vénus combinés pourraient donner un grand arbre fort, mais aussi avec une certaine grâce. C'est tout un système.
Et donc, ces signatures, elles servent à quoi ? Pour la guérison ?
Oui, selon Sédir, c'est lié. Il parle de guérison à distance et il utilise un terme un peu étrange, la mumie.
La mumie.
C'est un terme alchimique. En gros, l'essence vitale qui resterait même après la mort de la plante. Une sorte d'énergie résiduelle. Il donne l'exemple du sénécio pour les maux de dents, par exemple.
Et les rituels de cueillette, il en pense quoi ?
Alors, il mentionne que l'Église les condamne, bien sûr. Mais lui, il dit que pour l'initié, ces rituels ne sont pas forcément nécessaires. Mais ils ont quand même une raison secrète. Il laisse planer le mystère.
Fascinant. Et ça nous mène à un concept encore plus étonnant, la palingénésie.
Ah oui, la palingénésie. C'est l'art supposé de faire réapparaître le fantôme d'une plante.
Le fantôme ?
C'est-à-dire ?
L'ans primum, le corps astral, si on veut.
L'idée, c'est qu'à partir des cendres d'une plante, en les chauffant dans une fiole, on pourrait voir son image spectrale ressurgir.
Incroyable ! Il y a des exemples.
Sédir raconte une anecdote avec un Polonais qui aurait réussi ça. C'est une idée qui traîne, reprise par Kiesewetter aussi. Ça touche à des questions profondes sur la mémoire de la matière, l'empreinte laissée.
Ça fait penser un peu à l'homonculus de Paracelse, non ? Cette idée de créer quelque chose d'artificiel.
Exactement, il y a un lien. Kiesewetter fait au rapprochement. C'est cette fascination pour l'essence cachée des choses.
Et cette fascination, justement, nous amène à la deuxième partie, issue de Stanislas de Guaita, basée sur Kiesewetter. Mais là, on change complètement de ton, non ?
Ah oui, carrément. On quitte la philosophie un peu éthérée de Sédir et on tombe dans l'atelier des sorciers et des sorciers. C'est beaucoup plus pratique.
Presque un inventaire, hein ?
Un inventaire.
Oui, un catalogue des outils, des substances liées à la sorcellerie traditionnelle. Et parfois, c'est assez inquiétant, disons.
D'accord. Plus concret, moins spirituel. Quel genre de choses on trouve dans cet inventaire ?
Guaita liste ça par ordre alphabétique. Alors, on a, par exemple, l'aiguillette.
L'aiguillette.
C'est un sort pour rendre un homme impuissant. Nouer l'aiguillette, comme on disait.
Ah ! D'accord. Il revient aussi sur l'androïde, le monculus dont on parlait. avec une recette assez spéciale. Œufs, sperme humain, du fumier de cheval, pour créer un petit être.
Bon, on est loin du jardinage là. Et les baguettes magiques?
Il y a la baguette classique du sourcier en coudrier, mais aussi la baguette de sorcier bien plus complexe, avec des rituels, de l'acier aimanté, parfois même du sang.
Et les grimoires, le grand Albert, ce genre de choses?
Oui, il les mentionne, le grand Albert, le grimoire du pape Honorius, avec leur caractère étrange, considéré comme des signatures de démons ou d'esprits.
Et la mandragore, j'imagine qu'elle est là aussi.
Forcément, la mandragore c'est un classique, avec tout le folklore autour. La récolte hyper dangereuse sous un gibet, son cri qui tuerait.
Oui, on connaît les histoires.
Et son utilisation pour fabriquer des sortes d'idoles, de fétiches qui étaient censés répondre aux questions ou apporter la richesse. Guaita cite aussi d'autres plantes spécifiques comme la verveine, que Von Helmont appelait la plante attractive.
Utilisée dans les filtres d'amour, ce genre de choses.
Voilà, entre autres. Et puis, bien sûr, il y a les fameuses pommades des sorcières.
Celles pour aller au sabbat.
Exactement, les onguents. Guaita, il détaille ce qu'il pense être leur composition. Des narcotiques très puissants. Jusquiame, cigu, belladone.
Des plantes toxiques.
Oui, très. Et ces substances expliqueraient en fait les sensations de vol, les transformations en animaux, toutes ces visions hallucinatoires du sabbat. C'est une vision beaucoup plus rationnelle, presque démystificatrice par moment, par rapport à ces dires.
C'est vrai qu'on a deux mondes très différents. D'un côté, Sédir, qui cherche l'âme des plantes, le divin dans la nature, une quête très spirituelle.
Oui, une quête de sens, de l'esprit derrière la forme.
Et de l'autre, Guita, qui nous dresse un inventaire des pratiques magiques, parfois très sombres, sans forcément juger, mais en décrivant les outils et les méthodes de la sorcellerie.
C'est une bonne synthèse, oui. On a vraiment tout le spectre, de la métaphysique à la pharmacopée hallucinogène, si on peut dire.
Pour finir, peut-être une petite réflexion qui vient de tout ça, cette histoire de palingénésie, là, faire revivre la forme d'une plante depuis ses cendres.
Oui.
Créer cette information.
C'est une excellente question pour conclure. Qu'est-ce qui persiste vraiment? Quelle est la part de la matière? Quelle est la part de l'esprit? Ça laisse à réfléchir bien après avoir fermé ces vieux livres. Merci de nous avoir écoutés pour cette exploration.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.